Bonjour, nous accueillons Bénédicte Damon, directrice adjointe du Tate Garonne, afin d'évoquer le festival In Extremis qui se déroulera jusqu'au 31 mars. Ce festival s'inscrit dans l'ADN du Tate Garonne, à savoir proposer des œuvres de théâtre contemporain, mais pas que, dans une approche souvent pluridisciplinaire. Précisons aussi que les artistes invités viennent de différents pays. Et In Extremis aborde les questionnements qui agitent nos sociétés en empruntant des chemins de traverse. Bonjour Bénédicte, merci
Bonjour.
D'être venue.
Merci de m'accueillir.
Bonjour.
Tout d'abord, je vais vous demander quand le festival a été créé, est-ce que ça émanait d'une demande, d'une nécessité de faire comme ça, regrouper sur un mois, toujours le mois de mars, des rencontres pluridisciplinaires proposant diverses propositions artistiques?
C'est plutôt lié à des contraintes de programmation, c'est-à-dire qu'en fait, en France, avec ce système de saison, les projets sont définis très, très en amont.
Mmh.
Et en plus, les spectacles, les propositions sont un peu comme des perles sur un collier, c'est-à-dire c'est de tel à tel jour, etc. Tout est prévu. C'est bien, il y a un public qui est mobilisé en France, mais ça fait aussi rendre rigides les systèmes de programmation. C'est-à-dire qu'il faut que plus d'un an à l'avance, les spectacles soient décidés. Il faut que ce soit du mardi au samedi. Bon, ça, on coupe avec ça. Il faut que ça implique un certain format de spectacle. Ça implique aussi de prévoir de ne pas pouvoir accueillir l'imprévu. Et puis, en plus, les autres pays européens ne fonctionnent pas comme ça. Donc là, c'était aussi... dire in extremis, ça veut dire la programmation, elle se boucle en novembre pour mars, ce qui est très tard et totalement, inconscient, inconséquent par rapport aux contraintes du théâtre public en France. Mais ça permet d'accueillir des gens qui ne sont jamais venus, de toute discipline, d'ouvrir les lieux parallèlement, c'est-à-dire on va d'un lieu à l'autre à l'intérieur du dispositif
théâtre,
du théâtre. Des fois, il y a des lieux extérieurs. Et puis aussi, surtout pour le public, ça le met dans un autre rapport aux œuvres. C'est-à-dire qu'il n'est pas...
C'est une autre atmosphère.
C'est une autre atmosphère. Il n'est pas dans le spectacle qu'il a choisi
longtemps
6 mois avant,
avance,
etc. Ouais. Où c'est du théâtre, ou de la danse, ou de la musique, etc.
Il se laisse surprendre.
Il se laisse surprendre et en plus, il sera assez disponible pour l'inattendu. Ça ouvre un peu aussi le regard de tout le monde, en fait.
Mais c'est quelque chose auquel vous tenez, comme ça, cet effet de surprise. Vous l'avez dit des fois lors des conférences de presse.
Oui, c'est important. Et puis, c'est aussi... c'est vrai que c'est dans la logique de la communication aujourd'hui, faire événement à la dernière minute, mais c'est aussi le fait de pouvoir, en même temps, il y a toujours des gens qui travaillent en résidence, qui vont sortir, qui vont montrer une sortie de travail. C'est associer aussi les spectateurs à cette question du travail. Singspiel de Maggie Marin, ça a été montré la première fois dans In Extremis. Ça tourne encore aujourd'hui. Là, ce soir, il y a maintenant l'Apocalypse, qui est une proposition de deux acteurs qui ont travaillé avec Jeanne Candel. Voilà, ils ont travaillé toute la semaine. Il y a un chantier Barreau d'Evelle, la compagnie d'ici, la sortie
de résidence.
Ce soir, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hein. C'est totalement ouvert. Et le public aussi, il se rend disponible à ça, à des propositions qui ne sont pas... c'est pas dans un rapport, je ne dis pas que d'habitude dans la saison, c'est un rapport de consommation, mais là, voilà, on prend les choses un peu de manière directe. Et donc, surtout, ça permet aussi de montrer, d'accueillir une première fois des fois des artistes qui peuvent revenir après. Les saisons suivantes.
Et alors du coup, est-ce que le public est différent? Est-ce que le public qui vient au spectacle Garonne, au théâtre Garonne, sur la programmation annuelle, et le public qui va venir sur In Extremis est différent?
Je ne sais pas, en fait. Je pense qu'on a un public... En fait, on ne fait pas d'abonnement, on fait une carte d'adhésion qui coûte 10 euros et les gens peuvent prendre autant de spectacles qu'ils veulent et même 10 places pour le même spectacle s'ils veulent. On a cassé la rigidité de l'abonnement, qui fait que vous pouvez venir avec vos amis et tout ça. Donc, les gens prennent en moyenne 14-15 spectacles dans l'année, ce qui est énorme.
C'est
14-15
même.
Places. Mais il y a aussi d'autres publics qui viennent. C'est pas limité aux adhérents Garonne, même si ceux-là se bougent aussi.
Et par rapport à la programmation de ce festival-là, du coup, les propositions sont très différentes. Il y a des sorties de chantier, en fait, des sorties, ouais, des créations qui sont en cours. Et puis, il y a des spectacles qui tournent depuis un petit peu plus longtemps. Comment vous avez élaboré cette programmation ?
Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui tournent depuis longtemps, pratiquement pas, en fait. La question des chantiers, c'est simple. Il y a une compagnie avec qui on a travaillé déjà, qu'on aime beaucoup, qui est Barreau d'Evel, qui nous semble renouvelle le genre quand même. Et puis là, ils entament un chantier où tout était complètement ouvert. Ils reviennent à leur duo fondateur et leur complicité, après avoir fait avec Bestias une très grande, diriger une très grande équipe, pour revenir aux fondamentaux. Jeanne Candel, elle est associée au Théâtre Garonne, et en même temps qu'elle présentait Orfeo, elle a pu travailler sur chantier complètement ouvert aussi, là, aucune contrainte sur les artistes. On est vraiment, c'est vraiment les artistes qu'on accueille, hein, plus que des spectacles. Et puis après, les autres, en fait, il y a quasiment...
Il y a aussi un compagnonnage avec les gestantes, notamment, mais ça depuis longtemps.
Ils sont compagnies associées, et c'est vrai que ce soit... Bon, Jeanne Candel reviendra l'an prochain avec Demi-Véronique, dans la saison. Mais, par exemple, l'atelier, la Tégestane de Coup Discordia, dans la lignée du serment... de l'écrivain du roi de Diderot ou de Onomatopée, c'est vraiment et c'est vraiment un chantier. C'est un chantier et c'est le bordel sur le plateau, hein. C'est-à-dire que c'est ces bons hommes qui ils parlent théâtre, en fait. Ils fabriquent. Qu'est-ce que c'est un atelier pour des acteurs on est dans le métier. Mais les autres, par exemple, le travail d'Alain Béard qui sera présenté fin mars, c'est vraiment aussi une sortie de résidence. Uniforme de Sarah Oterloni, c'est une première en France. Études hérétiques, c'est une installation d'Antonia Livingstone et de Nadia Lauro. C'est une installation chorégraphique. On est à l'intérieur de l'installation, du dispositif. Ça a été montré dans deux villes en France. Et le 15e congrès extraordinaire de Vlad Khorvat, c'est une première en France aussi. Donc, il y a « We don't speak to be understood » ce soir, qui a été montré aussi déjà en région parisienne, mais ce sont pour la plupart des pièces inconnues, des propositions inconnues. Ce qui fait qu'il y a, il y a aussi prendre le risque. On prend le risque surtout le côté public, puisqu'on les gens ont le programme un mois et demi avant, professionnel. C'est-à-dire que c'est que des propositions qui ont pratiquement jamais été présentées cette année en France.
Est-ce que vous pouvez préciser concernant les études hérétiques, puisque ce sont les deux personnes dont accordent une importance à tout ce qui est la dissidence, la lenteur et des gestes comme ça qui seraient un peu obsolètes. Elles travaillent comme ça dans cette approche.
En fait, de mettre le point. Antonia, elle se définissait comme artiste queer. Je crois que maintenant c'est au-delà, c'est aussi. Et c'est vraiment une artiste. D'abord, c'est une danseuse extraordinaire. Antonia Livingstone, elle était dans Supernatural l'an dernier avec Simone Oterloni. Là, les deux filles lâchées dans la nature. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est extrêmement transgressif comme spectacle. Et là, il s'agit vraiment avec Nadia Lauro, qui est scénographe, en fait. C'est elle qui avait fait les scénographies aussi de Jonathan Capdevielle dans Saga. Voilà, qui travaille avec beaucoup d'artistes. Proche des arts plastiques, elles ont imaginé. Ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs espaces de configuration très différentes. Elles ont imaginé d'inventer ce qui est un peu le pendant du banquet de Platon. Mais le banquet de Platon, c'était, comme elles disent, des vieux pédérastes qui s'entouraient de beaux éphèbes. Et elle, là, elle propose une autre socialité. Vraiment. Une autre approche. Ça va au-delà de la question queer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a présence animale, il y a une autre présence au monde. Elles invitent le public à une autre présence, en fait, au monde. Où il y a effectivement la question de la violence, d'absence de violence totale. Moi, je dirais, ayant vu, on se sent participer quand on est dans cette proposition. Je dois dire qu'on l'accueille avec le Centre de développement chorégraphique. Et en fait, c'est vraiment la traversée d'une expérience. Mais ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur ce mode de convocation du public où on l'invite à traverser des expériences. On considère les gens comme de dire...
des acteurs, entre des guillemets.
Des acteurs.
Entre guillemets, je précise.
Ils ont de la valeur, ils ont une importance. Ils ont une vraie importance. On leur dit toujours, il y a des bonnes représentations, il y a de bons et de mauvais publics. C'est quelque chose qu'on fabrique ensemble, une représentation. Et donc là, c'est vrai que il y a 80-90 personnes qui sont invitées dans ce dispositif qui est complètement pensé au niveau des couleurs, mmh. au niveau des matières, au niveau des présences, pour un peu faire proposer autre chose mmh. que le monde, nous, mmh. une espèce d'utopie.
C'est
en
un
fait.
Voyage.
C'est, oui, c'est, en ailleurs. Fait, c'est une utopie, mmh. en fait, en acte, mmh. je dirais. Une autre manière mmh. d'exister, une autre manière, une autre relation aux autres, fondée sur la tendresse, sur l'écoute, mmh. sur le respect, en fait, il y a beaucoup de sensualité mmh. aussi dans le travail qui est présenté. Mais ben, de la même façon, Vladka Horvat, par exemple, quand elle invite une dizaine de femmes de Toulouse à parler de la guerre en ex-Yougoslavie, ouais. issues de communautés mmh, différentes. Là, on dit ça dure 4 heures, et j'en suis, mon Dieu, 4 heures. Mais en fait, là où ça s'est fait, les gens restaient, parce que oui. ce qui se passe est totalement inattendu.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose qui surgit, mmh. qui n'est pas du tout prévisible aussi. Et qui est, les femmes dans la guerre, on ne les a pas beaucoup entendues, hein, en fait.
Mais comme toujours, hein, si
comme
je puis
toujours.
Dire.
Alors et que... donc là, c'est leur parole ou la question de l'histoire intime, voilà, personnelle, ouais. collective et tout ça sont pas séparés.
Donc oui, c'est le chassé-croisé entre mémoire collective et puis des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes.
Oui, puis ça dépend vraiment des participantes, en fait.
Oui, mais j'imagine, oui.
Mmh. Qui invente cette chose-là, quoi. Mmh. C'est vraiment revenir sur l'histoire.
La valeur de témoignage.
Oui, oui, puis le fait qu'elle soit issue de différentes communautés, je pense que ça donne autre chose. Mmh. Mais même, je dirais que le travail de Simone Oterloni, qui là aussi c'est dans un autre rapport, c'est uniforme. Mmh. Et là, on est dans le plateau est dans un rapport quadrifrontal. Hein. C'est-à-dire que c'est presque comme un ring, la scène, et le public est installé autour de la scène.
Il les regarde un peu comme des scientifiques avec une loupe.
Je ne sais pas du tout. Non, ce n'est pas ça. C'est que ce qui est très important dans toutes les propositions, c'est qu'on ne guide pas les gens par la main pour leur dire mmh. quoi voir et quoi penser. Mmh. C'est ça qui est très important aujourd'hui, quoi. Et Simone Oterloni, elle interroge la question de l'uniforme et donc de l'autorité et du mmh. pouvoir. Donc ça commence avec des gamins qui jouent dans l'espace, qui ont l'uniforme de la police de Toulouse. Bon, ils s'en vont. Et puis après, c'est les performeurs. Et puis après, il y a une métamorphose des performeurs par rapport à l'uniforme. Et on sort du discours binaire, attraction, répulsion, mmh. par rapport à l'uniforme ou par rapport à tout ce qui s'est dit ces derniers temps.
C'est plus complexe.
C'est plus complexe et ça interroge ce que chacun projette ou comment chacun vit cette question-là de l'uniforme ou de l'autorité ou du pouvoir. Mmh. Donc c'est vraiment, là aussi, c'est traverser une expérience, quoi. Mmh. C'est en cela que... la performance aujourd'hui, elle rejoint un peu aussi les premières, ce qui a inscrit la performance dans l'histoire de l'art aussi. Mm-hmm. C'est cette question-là, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui surgit et quelque chose qui arrive sur le moment. Et en fonction du public qui est là ou qui regarde, on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Mm-hmm. Non, toujours un petit effet de surprise,
oui,
si on peut dire.
Oui, mais surtout, je pense que c'est un moyen privilégié de mettre en résonance des préoccupations aujourd'hui communes, quoi, sur la question, avec études hérétiques, sur la question du genre, de l'assignation sexuelle ou de la liberté par rapport à ça. C'est très profond, hein, comment ça trouble en fait, sur l'uniforme, sur la question du pouvoir,
le rapport au pouvoir, bien
voilà,
sûr.
Sur, bon, par exemple, la vie des formes interroge le vivant en fait, c'est-à-dire que Renaud Herbin et Célia Oudard, elle est écrivaine, elle raconte que ses parents étaient marionnettistes et lui, c'est pas une marionnette qu'il a, c'est un mannequin qui est presque son alter ego et avec lequel il est obligé de jouer, de composer sur la question du poids, de la représentation et on a le regard obligatoirement attiré par le mannequin. Donc il y a la question aussi là du vivant, de l'inanimé, de la nature, du rapport à la nature. Il y a toutes ces questions qui traversent les préoccupations, qui sont des préoccupations partagées et que les artistes arrivent à mettre en forme. Et c'est, je crois que c'est ça le plus intéressant, le plus riche dans ce qui se passe actuellement. Mmh. C'est cette capacité des artistes à faire des propositions pour élargir notre manière de regarder, mais aussi de ressentir. Mmh. De ressentir les questions. Puis on les partage avec des gens autour de nous, on ne sait pas, on les connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Donc ça, c'est les communautés éphémères de spectateurs qui... et c'est pour ça...
C'est la magie du spectacle vivant aussi, voilà. De se trouver dans un endroit bien précis, à un horaire bien précis, avec des gens, comme vous dites, que nous ne connaissons pas, mais nous partageons une même expérience. Et chacun avec ce qu'il est, avec...
Oui, c'est une grande leçon de tolérance. Ouais.
C'est une force aussi.
Oui, c'est une grande force. Et c'est vrai qu'il était prédit que la mort du théâtre, du spectacle vivant, parce qu'il y a ces grandes machines d'industrie culturelle, mais c'est l'inverse total qui se passe. C'est-à-dire que même si on ne parle jamais de tout ça à la télévision ou dans les grands médias, les salles sont pleines. Il y a beaucoup de monde.
Au contraire, je crois que c'est vraiment, à l'heure actuelle, une nécessité de se fondre comme ça et de se retrouver ensemble. Oui. Avec des gens, comme vous dites, que nous ne connaissons pas. Mais voilà, à un moment donné, nous partageons une même chose, en sachant que ça varie en fonction des individus. Mais voilà, face à une proposition, il y a comme ça. Et puis ça permet, comme vous dites, les artistes, de par leur manière, de par leur approche, déploient maintes facettes pour aborder un problème. Et puis aussi, c'est toute une histoire de sensibilité au plus profond.
Oui, et puis aussi, c'est une... C'est vrai que c'est une ouverture à la tolérance.
Bien sûr.
C'est
l'écoute de l'autre.
Voilà, il y a des gens qui viennent donc de plusieurs pays différents qui sont programmés là-dedans. Et puis peut-être qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais juste finir sur une des propositions qui est un petit peu marrante par rapport à ça. C'est maintenant l'apocalypse qui a lieu ce soir.
C'est une approche clownesque un peu.
Ben, c'est surtout que là, le théâtre joue avec le cinéma dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que c'est le tournage monstrueux, extraordinaire, énorme d'Apocalypse Now de Coppola. Et il y avait sa femme qui devait faire Eleanor Coppola, qui devait faire un film. Et puis, elle a écrit un journal de tournage. Et ça a été repris par deux artistes qui travaillent avec Jeanne Candel. Donc, il y a ce côté décalé et ce côté burlesque. Et puis en même temps, qui met en jeu aussi la sensibilité personnelle, les sentiments personnels. Et Sarah Le Picard et Nance Jourda, en fait, interprètent Eleanor Coppola et un stagiaire, soi-disant complètement largué sur ce tournage éléphantesque. Et en fait, avec des moyens de théâtre, mais vraiment, vous savez, très bricolé, quoi. Moi, j'ai vu ça en gare en ruine. Là, ils ont travaillé toute la semaine pour qu'il y ait des lumières, qu'ils soient dans une boîte noire. Mais c'est des moyens du théâtre qui sont vraiment... c'est les moyens très pauvres du théâtre. Et ça arrive à toucher au cœur de problèmes qui sont passés autour de ce film. Et ça arrive à toucher sur la question de la mort, sur la question du danger, sur la question de l'amour qui se perd, mais aussi extrêmement drôle sur le commentaire de ce tournage apocalyptique, quoi, où je veux dire, il y avait les sauts de cocaïne et de champagne à la disposition des artistes. Enfin, ça a failli s'enliser définitivement aux Philippines et couler la compagnie hollywoodienne. Donc, ils s'attaquent à un monstre, quoi. Ils sont deux misfits, comme ils disent, c'est décalé sur le plateau. Ils s'attaquent à un monstre. Et en fait, voilà, rien n'est impossible au théâtre, en fait, quand même.
Mais c'est toujours vrai, cette magie, cette capacité qu'ont les artistes, avec le théâtre, les moyens pauvres, comme vous dites, de pouvoir justement faire entendre, donner à voir des choses extrêmement importantes qui touchent.
Puis surtout aussi, vous avez raison, et puis c'est aussi, on fait appel à l'imaginaire du spectateur.
De chacun, bien sûr.
C'est-à-dire que là, on voit les hélicoptères avec les pales, on voit les Philippines, la bérésina de ce tournage, le désarroi, etc. Et on est presque dedans, alors qu'en fait, il y a deux acteurs sur le plateau, quoi, et très peu d'accessoires ou de décors. Donc c'est vraiment l'imagination, quoi, notre créativité qui est sollicitée.
Mais c'est important.
Oui, bah oui, je pense que c'est ça aussi qui
fait le succès de cette manifestation.
Ça peut pas être, mais c'est partout au théâtre, quoi. Vous savez, le théâtre, c'est pas l'opéra. Il suffit de dire. Là, il y a un lac et nous, on le voit, le lac.
Bien sûr, oui.
Ça passe par le langage.
Hein. Oui, mais c'est tout.
On crée tout. On crée un monde avec le verbe, quoi.
Ouais. sur le moment. Ouais. Ouais. Il faut aussi préciser qu'il y a aussi des tables rondes avec différents artistes et qui sont animées par notre consoeur de Radio Radio, oui. Sarah Autosserre.
Voilà. Oui, dans le hall d'accueil du théâtre. Et puis, je voulais aussi préciser que donc, dans l'idée de rendre ce projet accessible à tous, on a fait des places à 11 euros, à 7 euros pour les jeunes et étudiants. Et le deuxième spectacle de la soirée, quand on a payé 11 euros, est à 7 euros. Et il y a aussi des spectacles qui sont libres, d'entrée libre. Donc, je ne pense pas que la question financière soit... Mais c'est surtout un moment, c'est un moment de réflexion commune, c'est un moment extrêmement festif, in extremis. Voilà, un peu, on frôle le danger tout à fait mesuré. Et puis j'ai trouvé que dans le contexte actuel politique assez moralisateur et assez qui joue sur les peurs,
toutes les peurs,
cette image de ce postérieur enrobé de dentelle turquoise qui met les pieds en l'air et voit le monde, met le monde cul par-dessus tête, j'ai trouvé que c'était un message, c'est dans toute la ville, je trouve, c'est un message positif.
Oui, qu'il faut oser et qu'il faut faire éclater les barrières, si on peut dire.
De la joie, du désir, du plaisir à être ensemble et de combattre la peur.
Oui, parce que la peur enferme et renvoie.
Et puis en plus, la peur fait rentrer chacun chez soi et paralyse.
Et là, au contraire, il s'agit de débridement, si on peut dire.
Mais c'est surtout un renversement, je dirais, de ce qui est en train de se jouer ou de ce qu'on subit actuellement. C'est un renversement. En plus, c'est un homme qui est enrobé de dentelle turquoise, puisqu'on voit les poils aux pattes.
On voit ça, on voit qu'il a des poils aux pattes. Alors on se dit, bon, si c'est une femme, elle est bien poilue.
Non, c'est un homme.
Et donc, pour réserver, il faut appeler au Théâtre Garonne, au 05 62 48 54 77. Et puis, sur le site internet, on peut trouver toutes les informations également. Merci beaucoup, Bénédicte Nonamont.
Merci, Bénédicte.
Merci à vous.